René Crevel, Détour. Chapitre 1, Prélude, avec un S. Ma mère était de celles qui gardent la tradition des housses sur les fauteuils et de l'ennui, qui méprisent les jolies femmes et les hommes gais, détestent les bijoux, les oiseaux de paradis et les dentelles. Brune et sans grâce, elle incarnait dans le genre maigre la bourgeoise dite de tête. Elle m'aimait beaucoup, voulut faire de moi un homme rangé comme une armoire à glace, m'apprit l'arithmétique, les principes de la civilité puérile et honnête, le catéchisme. 2 x 2, 4. On ne met pas ses coudes sur la table. Dieu est un pur esprit créateur du ciel et de la terre. On embrasse sa mère le soir avant de se coucher. Même la tendresse lui semblait réglementaire, et moi je préférais aux siennes les joues de la femme de chambre, qui avait la peau douce et se parfumait à l'œillet. Mon père était dans l'armée. Ses amis disaient de lui « quel vieux rigolo ». Moi, je lui en voulais de ne pas faire plus grand cas de ma petite personne. J'avais encore une sœur, elle était mon aînée de 13 ans. J'étais fort jeune lorsqu'elle se maria. Donc, enfant sans gaieté, je pris l'habitude lâche de l'espoir. Dès que j'eus notion de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, me furent jours d'attente. 6 jours sur 7 pour penser au dimanche, où l'ennui s'affinait jusqu'à la déception, parce qu'on déjeunait en ville. J'avais bien pour me distraire la compagnie du fauteuil, qui, déplié, servait de lit à la bonne lorsque ma famille allait au théâtre. Ce fauteuil, parce qu'il s'étendait parallèle au sommeil d'une femme, me semblait le symbole même de la virilité. Le jour, ratatiné, en dépit de son hypocrisie cubique de vieux mendiant chinois, il gardait encore son prestige. Un soir, par le trou de la serrure, j'eus la chance de voir la femme de chambre les seins nus. Lui, le lendemain, me confia qu'il ne serait plus fauteuil, ni lit, ni mendiant, mes fruits de velours jaune, un corps dont, en dépit de ma coupable indiscrétion, je fixais mal certains détails, formerait son amende essentielle, et je serais, moi, une autre amende pliée contre la première. Bonjour, Philippine. Plus tard, je fus confiée aux soins d'une institutrice qui avait une chambre à l'appartement, avec un vrai lit, banal et en cuivre. La bonne ne descendit plus jamais de son 6e. Or, une année, ayant aux étrennes reçu la traduction de l'Énéide, je trouvai une ressemblance entre mon fauteuil et le vieillard de Pergame, pour qui, du temps qu'il était un robuste guerrier, maintes fois descendit de l'Olympe la plus belle des déesses. Vénus n'avait pas pris la peine de prolonger un peu la jeunesse du Troyen. Mon fauteuil était fané, son velours chauve. Je le baptisai Anchise. Pour ne pas avoir à le porter sur mon dos si nous devions quitter nos pénates, je ne me comparais point à Aînée. Tout de même, à défaut de cette piété filiale, je lui conservai une bonne amitié, de la reconnaissance pour m'avoir aidé à passer les heures. Son souvenir est au centre de mon enfance. À cause de ce souvenir, d'ailleurs, je me juge inapte à retenir les plus précieux et les plus communs des lieux communs sentimentaux, et celui-ci surtout, que l'oubli des affections seules nous donne assez d'indépendance pour atteindre jusqu'à nous-mêmes. Au lycée administratif et marron, me fut enseigné que certains mots, mettent à leur tête une majuscule, comme le marié ou le veuf un chapeau haut de forme. Parmi les manteaux anonymes, leur bel air les distinguant, ils me parurent mériter les plus grands honneurs d'indéniable hiérarchie. Je ne les imaginais guère plus sans le panache de leurs majuscules que les fronts napolitains sans l'ombre des feutres les plus subtils et les pieds des légats de Buenos Aires libres de leurs gaines brillantes. Il ne me semblait pas encore possible qu'un Sud-Américain pût transiger sur la qualité de ses chaussures, un Italien sur celle de ses chapeaux. J'en avais assez de passer mes semaines dans l'attente du dimanche. Je n'osais encore, pour moi-même, songer à l'amour avec un grand A, mais déjà me mettais en quête d'un espoir tout proche, et dont l'initiale put être de hautaine calligraphie. J'étais en quatrième. Le professeur, qui habitait un pavillon au milieu des murs de briques de Montmorency, eut à cœur de nous révéler la nature. Je crus que, dès Saint-Cloud, commençait un monde merveilleux. Les villes me parurent des abcès qui gâtaient l'harmonie d'un corps. Tout un hiver, je fus dans l'impatience de connaître enfin cette nature que j'avais jusqu'alors appelée campagne, comme si elle était juste une bonne fille un peu vulgaire. Pour cette nature, avec un grand N, enfin, j'eus la prétention du provincial pour le musée de sa sous-préfecture. Quelques années plus tard, un normalien suppléant devait, après mille autres révélations, m'apprendre que les choses existent par la seule image qui s'en fait en nous. Grâce au normalien subjectiviste, sur une route nationale, à gauche, à droite, derrière et devant moi, des champs de blé que le soleil écrasait d'une plaque de chaleur. Je compris, pieds las, muscles mous, gosier sec, mon impuissance. Si je préférais tel tableau à cette plaine et même à certaines visions de collines le soir tombant, c'est que je ne pouvais, de mes propres moyens, susciter la joie d'une surprise. Mes camarades me méprisaient parce que j'étais maladroit dans les jeux. Ma mère avait la voix trop brève, la main trop sèche, pour qu'on pût croire en sa tendresse. Je n'avais pas de jolie cousine, et pourtant je sentais déjà la nécessité d'aimer. Ainsi, voulant du reste expliquer par des complications d'âme ce qui était l'appel de la puberté, je résolus de grouper d'autres êtres jusqu'à ce que la confusion de leur ensemble précisât, en s'y opposant, la silhouette qui était la mienne, cette silhouette que je ne pouvais délibérément tracer noire sur fond blanc, noire sur fond vide. C'est alors que je perdis ma virginité, essayai mes premières aventures, appris à faire l'amour, cela d'ailleurs fort banalement. Tout de même, je devins vite assez familier avec les femmes pour ne plus me trouver devant elles gênée de mon corps comme d'un bouquet à offrir. Je voulus renoncer à mes préoccupations antérieures, que je m'étais mise à juger bien puériles et scolaires. Je fus le garçon semblable à tous les très jeunes garçons qui savent si mal s'avouer déçus. Or, les gestes élémentaires ne m'ayant pas satisfait, j'éprouvais d'autres désirs. J'en appelais certaines tentations. Mais, craignant de n'y point trouver encore la fameuse extase, trop jeune pour imaginer dans le calme un bon code des voluptés, après quelques mois d'essai, je fis volte-face, parler de renoncement. J'aimais toujours la compagnie des femmes. J'aurais voulu plaire à toutes, mais je n'allais plus vers elles dans quelque intention brutalement voluptueuse. La courbe d'un geste, le mystère d'un parfum, un mot qui chantait au milieu d'une phrase, seul me donnait le goût de leur présence. J'eus alors de charmantes amies. Rentrée chez moi, si je pensais au regard de l'une d'elles, je ne savais même plus la couleur précise de ses yeux, ni celle des miens d'ailleurs. Pourtant, je m'efforçais devant le miroir à la candeur des conscrits de Basse-Bretagne, dont les calembours allègent tout mystère jusqu'à la transparence et laissent deviner certaines réalités difficiles et les liens qui les unissent entre elles. Ainsi, par exemple, se révèle l'âge de la belle-mère du capitaine. Je me rappelle un 14 juillet, avant de regagner leur pays, des Américaines buvaient pour toute leur existence. Au petit jour, on espérait que les secrets essentiels allaient pouvoir se lire en toutes lettres. L'une visait des buts précaires avec des allumettes enflammées. L'autre dansait, nue, vidait tous les verres, trépignait, jurait. Dans la rue, elle exigea l'unique taxi, défendit qu'on l'accompagnât, et debout sur la banquette, la bouche tordue par je ne sais quel désir supérieur aux forces humaines, devint plus belle encore de son mépris. Était-elle une inconsciente impératrice ? Cette autre ne sortait pas les nuits où l'on dansait sur les boulevards. Elle passait les heures à se parer. Sa chambre s'encombrait de robes, d'écharpes, qu'elle aimait comme des serpents à charmer. Elle avait un joli nom et ne fardait jamais son visage pâle. Elle voulait que le témoignage des hommes l'aidât un peu les jours de doute. Aussi usait-elle de son accent tout comme Monsieur de Talleyrand bégayait par diplomatie. Une femme mécanique eût mieux convenu à ma sensualité. On disait qu'elle était sotte. Pourtant, je lui prêtais une grande intelligence, n'ayant point le courage de n'en point demander, même aux plus beaux yeux. J'espérais aller plus loin que son corps, et ma raison de la vouloir près de moi n'était pas la recherche de quelque exaltation. Tant qu'elle demeurait, je faisais effort pour oublier sa peau plus douce pourtant qu'ivoire à caresser les paupières closes. Un homme fort, suivant le goût du siècle, trousse les marquises et leurs chambrières, essaie des étrangères et de leurs grooms en molleton rouge. Pour moi, n'incorporant l'amour qu'à la dernière extrémité, je demandais à cette femme de laisser flotter non les voiles de ses épaules, mais certains désirs dont, sans doute, pourrait naître le mien. Mais dès qu'elle me quittait, j'avais besoin de sa présence charnelle, jusqu'à vouloir prendre la soie de mon fauteuil pour le souvenir de sa robe, si légère. Alors, afin d'être sûr que les choses se faisaient toutes à son image, il m'était aussi facile d'éteindre une lampe qu'au dieu de mon enfance un soleil. Les dentelles héritées de sa grand-mère, était-ce d'anciennes malines ou bien un tulle, pas même un point d'esprit, un tulle couvert d'arabesques illusoires et de jolis noms en broderie. 1000 petites femmes peuplaient ma chambre. Parce qu'elle ne me voyait plus, elle m'obéissait jusqu'à fermer les yeux dès que s'abaissaient mes paupières et croyait qu'on ne les voyait plus, elle mourrait vraiment béatifiée. Alors le souvenir, rien que le souvenir, enveloppait mon sommeil avec la douceur d'un suaire bien tissé. Ainsi je me voulus chaste, à l'âge où les pratiques les plus niaises et les plus sales contentent les jeunes garçons. La rage d'avoir manqué la révélation n'était au reste point seule à m'y décider. Dans mes calculs, je prenais certaines craintes pour des pressentiments mystiques. Lorsque j'étais enfant, par exemple, persuadé que j'aurais à la promenade au moins une minute d'étourderie, où je lâcherais la ficelle du ballon rouge qu'on venait de m'acheter, tout de suite j'ouvrais la main, prenant à témoin les ténébreuses puissances de ce que j'appelais un sacrifice. En retour, je l'ai supplié de mettre l'oiseau multicolore que ma mère n'avait pas voulu m'acheter dans le tiroir d'une table de bois blanc qu'on avait clouée pour que mes doigts ne s'y meurtrissent point. Rentré, je parvenais à ouvrir le tiroir. Les mystérieuses puissances l'avaient laissé vide. Semblable était la puérilité de ce donnant-donnant que j'essayais à l'âge où les amis de nos familles nous appellent « jeune homme » et nous caressent la joue pour voir si la barbe va bientôt pousser. Les femmes aiment Chérubin, couchent volontiers avec lui, mais n'osant dire « mon amant ». C'est qu'elles ont peur de trop se fier à la tendresse des tout jeunes hommes, et pour n'en point souffrir, elles les chérissent à la manière des jolis animaux très familiers. Quant à moi, je craignais de ne point garder la maîtresse qui me rendrait heureux. Aussi, spontanément, j'abandonnais l'espoir et me donnais des airs de mépris pour que la volonté supérieure en qui l'on veut croire les jours de lâcheté m'accordât une compensation. Sans sujet central, en dépit de quelques jeux avec mes jolis amis, mon existence ne pouvait manquer de m'apparaître vide. Vint la saison des après-midi interminables dans les cafés, des confidences à des inconnus, que j'abandonnais lorsqu'à l'avouer j'avais perdu un peu de ma douloureuse inconsistance. Tout cela d'ailleurs est assez loin aujourd'hui pour que je ne me donne plus la peine de réfuter le proverbe « Les gens heureux n'ont pas d'histoire ». Mais quelle chanson monotone pourra me plaindre, lierre invertébrée sur un sol d'où ne jaillissait aucun arbre. Je n'étais pas un être définitif et pourtant, de l'humanité entière, je n'acceptais plus qu'une silhouette, toujours la même, dans les miroirs. De l'autobus, un geste était la fleur sur une tombe, ma tombe. Hélas, je n'avais à ma disposition que 2 fois 5 pétales. Et puis, pourquoi souffler des voyageurs vers ce jeune homme à peine entrevu et déjà mort de ma fuite? Je voulais me préférer, mais chaque mur derrière mes talons devenait un sépulcre. Je ne me trouvais plus du tout. Je serais bien reparti pour l'amour vêtu d'espoir comme l'enfance pour les opérettes du jeudi, car une vitre en biseau accusait déjà la tristesse mauve des solitudes aux paupières. Mais c'était tout de même avec le mépris des rues où le bonheur tremble en lettres de lumière, la fuite vers le square. Là, des fusains empêchent l'hiver de s'en aller jamais. Et parmi la tristesse des promeneurs, la chair n'a d'autre volupté que celle de ne plus savoir si elle a froid du brouillard ou chaud d'un col de loutre. Les passants et les passantes, à qui parfois se dédiait ma solitude, valaient juste ces poupées que les marins pétrissent quand les hamacs sont par trop solitaires. Ce cours de la fable antique, aux devantures, les miroirs deviennent d'attendrissants ruisseaux. Mais je ne sais que l'effroi de Narcisse, son effroi lorsque sa bouche, proche de l'autre bouche, jusqu'à s'y confondre, perçoit l'ironie d'une fuite au milieu des rires. Si la réalité ne semble plus irréfutable, il faut multiplier les hypothèses. Ne croit-on pas à la faveur des maquillages et des transformations que Frégoli n'est pas un homme, mais 10, 20 hommes venus chacun son heure d'un monde étrange très loin, derrière les coulisses. Or, certain orgueil accuse de futilité ces détours, et je ne rencontrais pas le seul qu'il m'importait de connaître. J'essayais de feindre la joie. Elle n'était qu'un costume de la même inutilité que le maillot de coton rose aux jambes des danseuses sur le tréteau des foires. Narcisse au piètre ruisseau, je n'apercevais personne sur l'autre bord à qui dédier mon amitié. Cette amitié, pourtant, m'étais-je mise à croire, pouvait seule me permettre le bonheur. Je l'imaginais glace. En elle, un visage dont on se serait soucié de savoir s'il valait la réalité d'un être extérieur ou réfléchissait sans plus un moi complaisamment projeté. Hélas, nul ne m'offrit le monde nouveau. Il n'y eut pas de démolisseur de la cité des hommes. Je n'entrais pas dans cette ville que j'espérais au soir entre ciel et terre, plutôt gravée que bâtie. Je me cognais au monument de tous les jours, et pour m'y résigner, j'avais trop voulu de mes propres mains une forêt en pierre amoureuse du rire des scies.